Mayari, dans chaque mot de tes refrains passe en pleurs. Oh Mayari, Mayari.
Messieurs Soupet, poésie de commenter en français de Hanef. Bonjour. Alors, on va faire une visite ensemble qui va durer à peu près 3 quarts d'heure pour comprendre un peu ce qu'est finalement le Panthéon. Alors le Panthéon, c'est un monument, si vous voulez le comprendre, c'est très facile. Quand vous entrez ici, ça ressemble plutôt à une église, parce qu'au départ, on a construit une église. Le roi Louis XV est tombé malade. Et il a fait le vœu que s'il guérissait, il reconstruirait une église. Combien d'années il faudra pour construire le monument, à votre avis? Oui,
30 ans.
30 ans, un peu plus. 32 ans pour construire le monument. On commence les travaux en 1758, on les termine en 1790, pile pendant la Révolution française. Donc vous vous retrouvez avec un monument qui est tout beau, tout neuf. Et les députés de l'Assemblée constituante vont chercher des idées. À quoi ça pourrait servir ici? Il y a une idée qui va arriver, pourquoi pas faire un panthéon français? Vous allez inhumer des gens dans la crypte. C'est une sorte de cimetière, le Panthéon. Et le but d'une panthéonisation, ça reste toujours valable aujourd'hui. Vous allez inhumer une personne en crypte, pas parce qu'elle est célèbre. C'est pas le but premier. Sa célébrité, ça l'aidera à rentrer ici, peut-être. Mais surtout, c'est que cette personne, quand vous allez l'inhumer en bas dans la crypte, c'est parce que cette personne va représenter des valeurs de la nation française. Elle va devenir un exemple à suivre pour les générations futures. Voilà ce qui fait rentrer les gens au Panthéon. Et alors, ben, par exemple, quand vous êtes en crypte, si vous arrivez à côté du caveau où il y a Victor Schœlcher, ben, vous penserez tout de suite « abolition de l'esclavage ». Ou si vous allez à côté de Jean Moulin, vous penserez quoi ? Résistance, tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée de la panthéonisation, vous donner des exemples à suivre.
Ben, Joséphine Baker.
Ben, oui,
un exemple à suivre. Joséphine Baker, un parcours magnifique, cette femme née aux États-Unis, métisse, mais métisse aussi amérindienne, ce qui est moins souligné dans son histoire, qui arrive à Paris très tôt, qui embrase littéralement Paris par ses danses, par son corps, par son imagination, par son humour aussi. Et bien sûr que la ceinture de banane, c'était un gag, c'était pour faire rigoler le monde, et qui ensuite, et en même temps, va devenir cette femme engagée, comme dit Régis Debray, une révolutionnaire à sa façon. Alors, il y a des aspects quand elle est à la manif du 30 mai 1968 du côté gaulliste. Mais bon, c'est une héroïne de la résistance, très très courageuse. Elle est à côté de Martin Luther King. Elle est vraiment de toutes les bagarres et d'une générosité absolument totale jusqu'à sa mort quasiment en scène. C'est une très très grande artiste, il ne faut pas l'oublier, une chanteuse absolument remarquable. Bref, vous avez compris, pour nous c'est Joséphine, entre ici Joséphine, et c'est un peu le point de vue de l'un de ses enfants, ses 12 enfants qu'elle a adoptés, dont celui qui est sans doute le plus engagé dans cette histoire, Jean-Claude Bouillon-Bakker.
Jean-Claude Bouillon-Bakker, je vous retrouve pas très loin du Panthéon, en fait. On est à un jet de pierre dans un café en face du Luxembourg. Vous êtes un des enfants de la tribu arc-en-ciel.
Oui, c'est ça. Je suis le 5e enfant de la tribu arc-en-ciel, nom qui a été donné par Joséphine elle-même à sa ribambelle d'enfants qui étaient 12 des quatre coins du monde, comme vous le savez, adoptés dans les années 50-60, et de religions, de races différentes pour symboliser une possibilité de fraternité universelle. Voilà.
Et alors, par curiosité, vous êtes de quelle race et quelle religion, du coup, dans cette fratrie?
Alors, d'abord, ma mère n'aimait pas beaucoup le mot race, parce que c'était devenu complètement péjoratif à une époque. Donc, elle prônait simplement la race humaine.